Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bonjour et bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Quelle semaine politique intense, à la tente je ne sais pas, mais en tout cas une actualité politique omniprésente dans la presse. Et la semaine n'est pas finie, semaine politique très chargée donc, avec en point d'orgue la conférence de presse jeudi dernier de François Hollande à l'Élysée, dans un contexte vraiment particulier pour le chef de l'État. Impopularité record, vie privée déballée, une majorité de plus en plus frondeuse, un chômage dont la courbe s'envole et une économie dans le rouge, un horizon très sombre pour le chef de l'État, mais que de matière pour les journalistes pour poser des questions et apporter la contradiction. Un contexte bien résumé dans Le Monde, daté d'hier. Un président qui se voulait normal vit un quinquennat anormal. C'est de cela dont nous allons parler, les relations normales ou anormales, critiquables peut-être, entre la presse et le président. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à personne. Nous allons essayer de comprendre, si on peut, et expliquer aussi les liens et les relations entre les journalistes et, en l'occurrence, le président de la République. Avec nous en studio, Cécile Amard du journal du Dimanche. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cela fait 15 ans que vous suivez François Hollande, et notamment lors des conférences de presse depuis qu'il est président. Votre livre, Jusqu'ici tout va mal, a été publié au début de l'année. Vous êtes également co-auteur avec Cécile Duflot d'un livre dont on a beaucoup parlé lors de cette rentrée, De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion. Thomas Vider, chef du service France au Monde, mais aussi et surtout producteur à France Culture de l'émission L'Atelier du Pouvoir, le dimanche à 17h, demain, à ne pas manquer. Et Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Culture, qui va nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindrons Denis Rouget en direct de Nantes dans les locaux de France Bleu Loire-Océan, président de l'association nationale Les Pieds dans le PAF, et il nous dira s'il a le sentiment d'être bien informé sur les questions de politique intérieure. Avec nous également nos deux regards extérieurs, l'homme des images et du multimédia, Thibaut Henneton, et notre sémiologue incontournable dans le secret, Mariette Darigrand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et en toute fin d'émission, nous rejoindrons Pierre Benazé, correspondant de Radio France à Bruxelles, et il nous dira ce qui a fait la une cette semaine en Belgique, et ce n'est pas François Hollande. Et puis également le clin d'œil au théâtre ce soir, signé cette semaine Nathalie Lopez. Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy et aux manettes Stéphane Poitevin. Vos commentaires, vos réactions, n'hésitez pas à vous exprimer sur notre site franceculture.fr. Bienvenue, merci d'être avec nous dans le secret des sources.
Le message de vérité de François Hollande face à la presse. Le président tenait sa quatrième conférence de presse. Croissance, impôts, engagement en Irak. Que faut-il en retenir? A-t-il convaincu? On entendra Nathalie Saint-Cricq et François Langlais.
Voilà, extrait du journal de 20h de France 2, jeudi dernier. François Hollande a-t-il convaincu? Eh bien, on va voir. En tout cas, il s'est longuement exprimé lors de cette conférence de presse. C'est un exercice attendu, il y en a deux par an, et la conférence de presse présidentielle est entourée d'un cérémonial très bien rodé. Le pupitre, les drapeaux français, européens, puis les ministres, tous assis à la droite du président. Alors pour les journalistes, Cécile Amard, je crois que vous y étiez hier, hein, vous ne les ratez pas les conférences de presse présidentielles.
Non.
On s'installe où on veut quand on est journaliste?
Oui, on s'installe où on veut en fonction de l'ordre d'arrivée dans la salle par définition, mais oui, on s'installe où on veut.
Et il faut arriver tôt alors?
Si vous voulez être au premier rang, il faut arriver tôt.
Quelle est l'atmosphère dans la salle des fêtes de l'Élysée lors de cette conférence de presse ou juste avant cette conférence de presse? C'est impressionnant, cette grande salle?
Oui, en même temps,
les ors de la République.
C'est impressionnant si vous y êtes jamais allé, mais par définition, les journalistes qui suivent la conférence de presse du président de la République, pour la plupart d'entre eux, c'est ceux qui suivent le président de la République. Donc, ouais, le décorum, on a... hélas, un peu l'habitude de ce décorum-là. Donc oui, l'endroit est pesant. Après, c'est un exercice qui est quand même notre travail habituel des journalistes qui le suivent.
Thomas Vider.
Vous posez la question à quoi ça ressemble. Ça ressemble à la fois, disons, à un rendez-vous professionnel et à un rendez-vous mondain. Un rendez-vous professionnel parce qu'il y a effectivement les journalistes qui suivent l'Élysée, qui suivent François Hollande au quotidien. Et puis vous avez toujours des têtes que vous ne voyez plus, que vous n'aviez plus trop l'habitude de voir et qui sont là. Donc il y a une sorte de, on va dire, de contrat de génération même qui se produit avec des revenants. C'est un rendez-vous journalistique et mondain, mais qui a à la fois son intérêt et ses limites.
Alors comment ça se passe pour les questions? Est-ce qu'il y a un ordre défini par l'Élysée, un tirage au sort? Je crois que jeudi, il y a eu 22 ou 23 questions.
Les premières questions, on peut le dire ici, elles sont effectivement, l'ordre des premières questions est défini par l'Élysée. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la salle, on savait que la première question était une question de France 2, que la deuxième question était une question de TF1. Voilà, ça, comment ils choisissent, j'en sais rien. C'est eux qui décident à qui ils donnent la parole en premier. Après, de toute façon, pour avoir le micro, c'est vrai qu'il faut demander, envoyer des textos, prévenir le service de presse de l'Élysée que vous voulez poser une question. On vous donne ou on ne vous donne pas le micro après.
On a vu des personnes jeudi soir se battre, mais enfin s'arracher le micro.
Et après, sinon, l'autre façon de le faire, c'est de ne pas respecter ça et d'être à côté de quelqu'un à qui on donne le micro et de prendre le micro. Quand je dis c'est l'Élysée qui choisit à qui donne la parole, oui. Ils ne choisissent pas les questions qui sont posées. Ils choisissent la personne, ils choisissent le média à qui donne la parole. C'est pas, les questions ne sont pas soumises à l'Élysée, c'est pas l'Élysée qui décide. Ils décident juste que France 2 a le droit de poser une question, la question posée, ils la connaissent pas. Voilà, il faut juste rétablir une petite vérité quand même sur notre métier sur ça.
Voilà, c'est fait. Conférence de presse d'hier, conférence de presse d'aujourd'hui, on écoute.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Ayez-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Les résultats, ils tardent à venir. Je le sais, je le vois. Ils viendront, j'espère, avant 2017.
Voilà, conférence de presse du général de Gaulle en 1958 et puis conférence de presse jeudi dernier de François Hollande où il espère donc que les résultats vont arriver avant 2017. Est-ce qu'il a bien fait de dire cela? Est-ce que c'est un aveu d'impuissance ou au contraire il parle comme quelqu'un d'honnête, là, François Hollande, qui ne veut plus faire de promesses en l'air comme la courbe du chômage?
Oui, c'est-à-dire qu'il est sincère. On lui a beaucoup reproché de dire le retournement arrive, la reprise est là, je vais inverser de la courbe et de ne pas y réussir. En même temps, du coup, on se dit, mais s'il n'est même pas sûr que sa politique va mener des résultats, c'est quand même très étrange comme positionnement politique.
Vous entendrez la porte s'ouvrir, c'est Frédéric Mettezo qui nous rejoint. Excusez-moi, si
c'est la marque. Donc c'est pas sûr que la sincérité, en tout cas la sincérité au bout de 2 ans et demi, et quand vous n'avez pas de résultats, soit une posture politique auquel les Français soient sensibles.
Alors, les deux extraits de la conférence de presse du général de Gaulle et de celle de François Hollande jeudi dernier, il y a 56 ans d'écart entre ces deux conférences de presse. C'est un exercice, me semble-t-il, qui n'évolue pas beaucoup. Je trouve qu'on écoute toujours très sagement lors de ces conférences de presse.
Bah non, justement, parce que ce qu'on entendait derrière l'extrait du général de Gaulle, c'est que la salle riait parfois aux éclats. Vous avez d'autres extraits de conférences de presse du général de Gaulle où les journalistes applaudissent. Et donc,
c'est un non-sens, un journaliste qui applaudit un président de la République.
Je pense que
un non-sens journalistique.
Bah oui, quand même.
Ça
s'est pas fait jeudi dernier. Je crois qu'il y en a un qui a tenté de le faire, mais en tous les cas, non, ça ne se fait plus. Donc, d'une certaine façon, je dirais que ce rituel s'est un peu normalisé par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans.
Je parlais dans la contradiction à apporter aux propos du président lorsqu'il s'exprime lors d'une conférence de presse.
Oui, il n'y a pas de relance. Voilà. Si c'est ça que vous dites, il n'y a pas de. Il n'y a pas de droit de suite, c'est une différence avec, les conférences de presse du président américain, quel que soit le président américain. C'est vrai que la presse, l'exercice de la conférence de presse aux États-Unis du président de la République, la presse est bien plus incisives. Mais voilà, c'est.
Et ce que vous dites, Frédéric, c'est juste. C'est-à-dire que, vu de l'étranger, je me rappelle d'un déplacement qu'on avait fait avec François Hollande juste après sa conférence de presse du 14 janvier dernier, d'un déplacement en Grande-Bretagne, et où les confrères britanniques nous étaient tombés dessus en trouvant, un, qu'on était beaucoup trop révérencieux, et deux, on était juste après les révélations de Closer, que sur ce chapitre-là, au début de l'année, que sur ce chapitre-là, les trois ou quatre questions qui avaient été posées à l'époque étaient nettement insuffisantes et qu'on n'était pas dans le droit de suite que vient d'évoquer Cécile Amar.
On a été très critiqué là, à cette époque, par la presse anglo-saxonne. Frédéric Mettezo.
Mais c'est même globalement un problème du journalisme français en général. Dans l'interview, même en tête-à-tête à la télévision ou à la radio, on relance beaucoup moins l'invité, qu'il soit président de la République ou ministre. Mais d'ailleurs, on va dire, ces faiblesses que vous pointeriez, Frédéric, des journalistes pendant les conférences de presse ont été pointées par un ministre lui-même, enfin plutôt un secrétaire d'État, Thierry Mandon, qui est très critique et qui dit « j'ai pas assisté à un exercice, un véritable exercice ». Il pointe les manques des questions et notamment sur le fond.
Ouais, il s'est dit concerné par le format de la conférence. « Ce n'est pas un exercice d'une modernité stupéfiante », dit-il.
Voilà, il insiste en disant qu'il n'y a pas eu de question réelle sur l'économie. Je crois qu'il n'y en a pas eu une seule sur la transition énergétique. Après, la question, c'est est-ce qu'il parle seulement des journalistes ou est-ce qu'il parle aussi de son patron ? Ça reste à voir.
Thomas Vidard.
Oui, et puis effectivement, même si c'est pas, on n'a pas ce droit de suite idéal et tout, néanmoins, on apprend quand même certaines choses lors d'un rendez-vous comme celui-là. Par exemple, à une question, François Hollande, avant-hier, François Hollande a répondu qu'il aurait dissous l'Assemblée nationale si Manuel Valls n'avait pas obtenu le vote de confiance. C'était une information, c'était une réponse à une question. Donc on apprend quand même certaines choses. Et par ailleurs, je suis d'accord avec Cécile, on voit beaucoup François Hollande quand on le suit au quotidien, et donc on a toute latitude à ce moment-là, de poser d'autres questions.
Je reviens quand même sur l'organisation de la conférence de presse et je me mets, comme vous, hein, dans le camp des personnes qui pourraient faire évoluer l'organisation des conférences de presse, mais 330 journalistes, pas une question sur le chômage. 330 journalistes et on n'a pas entendu les journalistes étrangers. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle réponse vous pouvez apporter ?
Enfin, on peut dire 330,
sur le chômage,
on peut dire 330 journalistes, il y a 20 questions. Donc déjà, on va dire 20. On ne va pas dire 330, parce que c'est pas... Et après, moi, pourquoi les gens, ils ont posé ces questions-là ? Parce que c'est des questions quand même qu'on se pose dans notre profession. Voilà, moi, je ne vais pas être celle qui va dire « moi, j'aurais posé toutes les bonnes questions et les autres ne les ont pas faites ». Il y a 20 personnes à qui vous donnez un micro, par définition, vous ne savez pas ce que vont être les trucs. Et ce qui est frappant, c'est que, on voit bien, on dit « la presse n'a pas posé de questions sur le chômage ». Mais est-ce que le président de la République a parlé du chômage ? Très peu aussi. C'est quand même ça, on peut le dire, un vrai problème.
Frédéric Mettezo.
Mais c'est aussi une culture plus générale du journalisme français. C'est vrai qu'on suit les hommes politiques par le prisme politique. La preuve, ce matin dans Le Secret des Sources, trois journalistes politiques. C'est vrai que, généralement, la narration politique se fait par des journalistes politiques comme nous. Et moins, il paraît que les Français sont pas bons en économie, ou en tout cas n'ont pas de tropisme économique. On le voit encore, peut-être dans l'intérêt effectivement journalistique autour de François Hollande, il y a une culture française qui est d'abord politique et moins économique ou environnementale. Diplomatique, si. Il y a quand même un certain nombre de journalistes diplomatiques qui suivent et qui s'intéressent au président de la République. Il y a eu quelques questions sur ce domaine, mais c'est vrai qu'on a en France cette culture avant tout politique qui fait aussi qu'on pose des questions politiques au chef de l'État.
Il n'empêche que, et sur France Culture, nous en avons interviewé, notamment Christine Moncla, les chômeurs attendaient beaucoup de cette conférence de presse. On les a diffusés dans le journal le matin. Et bon, voilà, on n'en a pas posé de questions, le président n'en a pas parlé. On a quand même un peu l'impression, et j'insiste un peu, on a un peu l'impression d'être un peu entre nous, un peu dans une bulle, un peu coupé du monde extérieur. Est-ce que vous avez également cette impression quand vous regardez avec le recul, lors de cet exercice particulier?
Oui, lors de cet exercice, un petit peu, évidemment, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une dérive qui pourrait être un peu populiste en disant c'est quand on confronte un homme politique aux vrais gens, entre guillemets, qu'on obtient les vraies réponses. Je ne suis pas sûr que, par exemple, les expériences du quinquennat précédent où Nicolas Sarkozy, sur un grand plateau télévisé, a été confronté aux vrais gens, avec le chômeur, la ménagère, etc. C'était forcément des grandes réussites. Donc, on peut effectivement s'améliorer, se bonifier quand on est journaliste. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le discours inverse et dans l'illusion.
Non, parce que si Lamarre le disait, on peut vraiment poser les questions que l'on veut lors de ces conférences de presse.
Ah ben oui, non, mais il y a forcément un côté entre soi des journalistes face à des hommes politiques, mais Thomas a raison. Enfin, les politiques, quand ils vont voir ce qu'on appelle des vrais gens, honnêtement, les séquences ne sont pas tellement plus sincères. Enfin, les gens ont été choisis, ils ont été castés, Enfin, c'est pas... Voilà, oui, alors... Sinon, il faut dire que les journalistes, ils s'intéressent qu'à leur monde, ce qui n'est pas vrai. Enfin, j'ai pas l'impression que François Hollande soit interrogé que sur de la politique politicienne. Enfin, ce que fait Le Monde, ce que font d'autres journaux, ce que font les autres services dans les autres journaux, interroge la politique économique du président, sa politique internationale. Enfin voilà, il n'est pas
épargné.
Non, mais même on lui pose des questions sur la politique qu'il mène et pas que sur la politique politicienne.
Exemple de question, jeudi dernier.
Les Français sont très attachés à cette image et à cette fonction présidentielle. Pourtant, c'est l'image d'un président justement ruisselant, trempé, qu'ils ont vu lors de l'île de Sein il y a quelques jours et ça les a frappés. Est-ce que vous n'avez pas porté atteinte vous-même à cette fonction présidentielle par votre attitude de manière plus générale et pourquoi n'avez-vous pas pris de parapluie ce jour-là ? Merci.
Alors c'est vrai qu'on a tous en mémoire cette scène sur l'île de Sein où on voit François Hollande en train de prononcer son discours et trempé, une pluie qui ne s'arrête pas. Thibault Henneton, l'homme des images dans Le Secret des Sources, il y a d'autres photos qui ont aussi beaucoup circulé, notamment celles que vous avez sélectionnées.
Ouais, une image qui n'est pas sans rapport avec une figure grammaticale très prisée par le président lors de sa conférence de presse qui a répété plusieurs fois « La France, elle, si ou ça, la France, elle, soit un redoublement du sujet avec dislocation à gauche, ça ne s'invente pas. La dislocation à gauche, c'est un procédé de l'emphase, le sujet est mis en valeur dans un geste ultra démonstratif qui emprunte en même temps à l'oralité. La France, elle, au moins, se distingue. » Et j'en viens donc à ce cliché qui montre plusieurs chefs d'État réunis lors du sommet de l'OTAN, les yeux levés vers le ciel où paradaient des avions militaires. Sur ce cliché qui a tant circulé, signé Ewan Berry, on voit le président Hollande regarder à l'opposé de tous les autres. Le cliché idéal pour illustrer le discrédit qui frappe actuellement le chef de l'État, au plus bas, à contresens sur l'autoroute des idées. C'est assez injuste, soit dit en passant, de lui faire ce procès, puisqu'on a plutôt l'impression d'une belle unanimité chez les Occidentaux, Hollande compris, ces temps-ci. Alors évidemment, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut aux images, puisqu'une image n'est jamais qu'un calque, et qu'un calque, ça se superpose à d'autres calques. Mais alors, s'agissait-il, oui ou non, d'un photomontage ou d'un recadrage malveillant ? Eh bien, que les choses soient claires une fois pour toutes, cette photo est bien réelle. Celle qui ne l'est pas, par contre, c'est à peu près la même photo, mais avec Angela Merkel qui regarde elle aussi à l'opposé des puissants de ce monde. Donc, quand tous les chefs d'État étaient braqués sur la tête de la patrouille, Hollande, lui, vous notez la dislocation à gauche, contemplait encore la traînée blanche qu'elle laissait dans le ciel, ou un autre avion, ou un autre volatile, voire même, allez savoir, une idée pure.
Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être.
Voilà, François Hollande réagissait lors du sommet de l'OTAN au début du mois au livre de son ancienne compagne. Quelques jours plus tard, dans le Nouvel Observateur, il déclare « J'ai vécu cette attaque sur les pauvres comme un coup porté à ma vie tout entière ». Cécile Amar, Thomas Vider, Frédéric Mettezo, une seule question sur les problèmes entre François Hollande et Valérie Trier-Villers hier. Ça suffisait, selon vous ?
Ah, amplement.
Pas la peine d'y revenir.
On peut dire qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes des Français, mais honnêtement, la relation privée entre le président de la République et son ancienne compagne, je crois que ce n'est pas du tout du domaine de ce qui regarde les gens. Enfin, voilà, moi, je suis toujours sur une position extrêmement dure sur ça. Voilà, la vie privée des hommes politiques ne m'intéresse pas.
Thomas, moi, là-dessus, j'ai un tout petit désaccord avec Cécile. Je pense que une question suffisait. Même, elle était trop hier. Mais en revanche, il était normal qu'on lui pose à un moment donné la question sur le livre de sa compagne. Ça lui a été posé lors de sa sortie à l'OTAN, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu, si cette question n'avait pas été posée, je pense qu'elle aurait dû être posée avant-hier lors de la conférence de presse, pour une raison toute simple. Je suis évidemment d'accord avec Cécile pour dire que c'est de la vie privée et qu'a priori on ne devrait pas avoir à rentrer là-dedans. Il se trouve que le livre est aussi un événement politique. Il y a des propos qui concernent la politique, le chef de l'État, le rapport aux Français, et donc des questions se posent, pas au-delà, pas sur leur rupture ou leur vie privée.
Non, mais c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est, comme la question lui avait déjà été posée, voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de revenir toutes les semaines sur ça.
Frédéric Mettezo, vous vouliez intervenir.
Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Cécile du journal du dimanche. Moi je pense que la question 1 avait déjà été assez posée et notamment évoquée par écrit dans le Nouvel Observateur, ce qu'il essaie, c'était pas une petite phrase lancée comme ça, ça a été fait à Newport, ce qu'on vient d'entendre. Donc je pense que ça suffisait. Et deux, je suis plutôt à titre personnel et professionnel sur ce que vous appeliez, Cécile, la ligne dure. En revanche, il y a peut-être une question à se poser sur le timing. On est au sommet de l'OTAN à Newport, on doit parler d'attaques en Irak contre des djihadistes, et on retrouve le président de la République qui est interpellé sur ça. C'est peut-être là qu'il y a peut-être un problème dans la gestion de sa communication. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, et on l'a vu hier avec Nicolas Sarkozy qui se déclare sur Facebook, peut-être que François Hollande aurait pu intelligemment désamorcer la polémique et par exemple publier un communiqué via les réseaux sociaux, ce qu'il ne fait jamais. Je ne suis pas communicant en chef du tout, mais là on peut s'interroger sur le fait de ne pas avoir anticipé et de proposer de réponse. Bah, on se retrouve avec un sommet de l'OTAN qui est quand même parasité par quelque chose qui fait quand même un peu, pour le coup, très, très privé, très personnel et pas vraiment en rapport avec les dossiers traités à Newport.
Une question, je dis, lors de la conférence de presse, mais quand même 400 000 exemplaires vendus du livre, Paris Match qui s'arrache, ça intéresse du monde ?
Bah non, enfin, pour le coup, ça n'a pas à être posé non. Comme question. Non, bah non. Non, pourquoi le président de la République commenterait ça ? Non, je pose la question.
Parce que ça a peut-être des répercussions politiques, ce que vous disiez un peu, Thomas Vidin.
Non, mais c'est le contenu du livre, enfin certains passages du livre sur lesquels on peut légitimement interroger le président de la République, sans y revenir effectivement, une fois qu'il a répondu, il ne fera pas d'autres réponses. Mais après, commenter le tirage du livre, ça n'a aucun intérêt.
Marie-Ève Darigrand, notre sémiologue qui a beaucoup de choses à dire, je croyais, à la conférence de presse. Et puis il y a aussi les journaux, les magazines avec des titres parfois assassins, comme cette une de l'Express au cœur de l'été. La titre, c'était « La faillite, c'est maintenant ». Alors, il y a effectivement un Hollande-bashing dans les journaux qui peut être assez violent. On aime bien détester, nous, journalistes.
Alors là, il y a une question sur cette détestation, l'amour de la détestation de François Hollande aujourd'hui, qui est posé aux journalistes, qui est posé aussi au public, hein, via certains succès de librairie. C'est une question très complexe. Je vais vous proposer d'hypothèses d'explication. La première hypothèse, c'est que en fait, il y a un premier discours, mais qui est avant vos propres prises de parole, dans le média au sens très général du terme, une première exagération qui est l'épopée. Alors vraiment, tout d'un coup, ça devient horrible. D'ailleurs, le mot de bashing vient du vocabulaire de l'épopée nordique, scandinave, ces endroits où on se fait la guerre et on se décapite. Donc ce sont des violences, si vous voulez, verbales, hein, qui nous arrivent quand même. Et c'est vrai que parfois, c'est complètement choquant. Même si vous ne les reprenez pas à votre compte après, vous parlez dans ce bruit-là, les journalistes. Donc il y a déjà cette volonté de tuer symboliquement une personnalité. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, je pense que ça dépasse la personne. Donc ça, c'est le premier vocabulaire, c'est l'épopée. Le deuxième vocabulaire, d'une certaine manière, il est à l'opposé de ça, et c'est le tout petit, c'est le nano, l'intimité. Et autant, dans le premier cas, on reproche au président de manquer de grandeur, autant dans le deuxième, on lui reproche de manquer de finesse, de manquer d'authenticité au sens sartrien du terme. Hein. On va dans sa psychologie, on rentre dans sa tête. D'ailleurs, plusieurs prises de parole... On fait cela. Je suis François Hollande. Donc, si vous voulez, on est pris en étau entre cette espèce d'hyperbolisation, c'est la guerre, qui est d'ailleurs dans le contexte géopolitique, économique, et puis le profilage psychologique où tout d'un coup, une parole de journaliste politique peut devenir une parole quasiment psychiatrique. Surtout que, disons, dans le contexte, il y a des gens avec personnalité double. Il y en a eu. Je pense à DSK, je pense à Cahuzac, je pense dernièrement à Thomas Thévenoud, qui a été, c'est pas moi qui le dis, mais Jean-Pierre Mignard, qui en tant que, enfin, en empruntant au vocabulaire de la criminologie, dit mais il y a des gens qui ont double personnalité. Tout ça revient, pof, sur François Hollande d'une manière contextuelle, si vous voulez, et puis tout d'un coup il devient un homme double, il faut aller chercher son secret, etc. Mais dans ce cas-là, en effet, je pense que la mieux placée, c'est celle qui est réellement embedded. Elle est là, elle nous dit... Donc, le succès du livre de Valérie Trierweiler est un symptôme, est un signe, je crois, du contexte politico-médiatique dans lequel ensuite les journalistes sont à parler. Et donc, ce succès dit que peut-être l'opinion publique française aujourd'hui a envie d'épopée, d'une part, mais se conduit comme une femme qui aurait été trahie. Et je suis très frappée par le vocabulaire sentimentaliste, amoureux, qu'il soit positif, quand Val se dit « j'aime l'entreprise », tout le monde glose sur la déclaration d'amour, ou qu'il soit déçu, l'amour déçu. Il nous a déçus. Mais François Hollande est là depuis 35 ans. Il y a eu des livres écrits sur lui, il y a eu des études. Je m'interroge beaucoup sur le sens de cette déception. Est-ce une incompétence, une naïveté? Ou bien est-ce, peut-être ce que vous avez pointé tout à l'heure, Frédéric, c'est-à-dire, c'est quand même la toute-puissance du chef de l'État, c'est-à-dire avec des mots que tout le monde, chacun d'entre nous peut prononcer, ce sont nos mots communs, mais quand même, toute puissance, à part Dieu, je ne vois pas. Et la hauteur de la fonction, si vous voulez, en France, elle est exactement comme le Dieu qui élit le roi ou la Vierge Marie qui porte le Christ. Si vous voulez, cette conception du pouvoir et de la fonction suprême, je pense que ce serait la bonne occasion, là où nous en sommes aujourd'hui, à cause du Hollande bashing, de nous interroger un peu sur tout ça.
La presse face à Hollande, vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur notre site franceculture.fr. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Voilà, reprise d'I Will Survive par le groupe américain Cake. Alors l'enchaînement est tout trouvé. Est-ce que l'on peut survivre en politique et rester président avec une popularité à 13%? Frédéric Mettezeau.
Oui, je serais tenté de dire qu'en politique, rien n'est jamais fini. On est en 2014. On peut appliquer ça à chaque élection présidentielle. Qui aurait vu arriver François Hollande en 2009? Qui aurait vu Nicolas Sarkozy arriver en 2004? Ça peut être commencer à émerger. Jacques Chirac en 92, enfin on va très loin, donc je pense que de ce point de vue-là, rien n'est jamais mort. Après, ce qui comptera pour François Hollande, c'est pas seulement une bonne communication ou des bonnes réponses, des bonnes ou des mauvaises questions, c'est d'abord des résultats et notamment effectivement sur le front du chômage.
Cécile Amar, Thomas Vidal, 13% de popularité.
Ça pose la question de sa légitimité politique. Pas de la légalité. Il est évidemment président de la République jusqu'à la fin de son quinquennat. Il a été élu pour 5 ans, il sera là pour 5 ans. Après, il y a un moment donné, même si on n'est pas dans une démocratie d'opinion, forcément, son autorité sur son camp devient de plus en plus compliquée. La façon dont les gens reçoivent ce qu'il dit est de plus en plus compliquée. Mais voilà, oui, il sera évidemment président de la République, sauf... s'il lui arrive quelque chose dans sa vie personnelle.
C'est ce qu'il a dit jeudi, les sondages ne sont pas un mandat. Et
il a été élu pour 5 ans, il sera là pour 5 ans, tous les présidents de la République française tant qu'ils ont été vivants, ont fini leur mandat.
Malgré les sondages. Alors on va rejoindre un regard extérieur, Denis Rouget, en direct des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes, nos camarades de France Bleu que l'on remercie pour cette liaison. Denis Rouget, bonjour. Alors vous êtes président de l'association nationale Les Pieds dans le PAF. Avez-vous le sentiment d'être bien informé pour ce qui concerne le domaine politique intérieure ?
Comme dans tous les domaines des médias et de l'information actuellement, on a l'impression d'avoir un entre-soi. Ça a été résumé tout à l'heure en disant qu'à la conférence de presse, les journalistes ont posé les questions que la profession se posait et pas forcément ce que les gens attendent. Donc des questions beaucoup de pratiques. Là, vous avez parlé du chômage, mais il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on souhaiterait voir abordées. Et surtout, cet entre-soi, c'est à la fois une culture des politiques et des journalistes qui viennent souvent des mêmes milieux, mais aussi un manque de modestie à la limite, où on pourrait tout simplement avoir besoin que les gens des médias acceptent que ce qu'ils nous présentent ne sont que des points de vue et pas forcément la vérité. Effectivement, il y aurait besoin beaucoup d'un éventail plus large d'opinions et de façons d'aborder les choses.
Non, enfin, ce n'est pas seulement des points de vue, c'est aussi des questions qui entraînent des réponses et qui donnent aussi des informations. On a quand même eu des informations, je dis, lors de la conférence de presse, sur la dissolution, sur l'Irak et les frappes qui ont d'ailleurs débuté peu après l'allocution du président Hollande.
Il suffit de faire un peu une revue de presse et finalement on a eu plus d'articles sur la forme, et là on en parle aujourd'hui mais c'est aussi le but de l'émission, là c'est un peu différent, mais j'ai regardé la presse ce matin, on parlait plus de la façon dont s'est déroulée la conférence de presse, l'attitude de Hollande, et très peu finalement sur le fond et ce qui a été abordé.
Est-ce que vous avez une question particulière à poser, Denis Rouget, sur la façon dont on a traité cette conférence de presse ?
Je dirais que, comme souvent, avec ce qui se passe actuellement aussi, c'est qu'avec les chaînes d'information continue, les gens ont accès aussi à l'intégralité de l'information et faire aussi leur propre jugement, même si des fois, le fait que ça soit du direct pur, c'est un peu compliqué, il n'y a pas assez de recul par rapport à tout ça.
Je voudrais juste compléter ce que vous disiez, plutôt corriger ce que vous disiez, monsieur Rouget. Vous avez parlé du traitement médiatique, votre association s'appelle Les Pieds dans le PAF et vous avez parlé des chaînes d'information continue. Il n'y a pas que les chaînes d'info continue, il y a la presse papier et internet qui a encore le temps, heureusement, d'avoir du recul sur les choses. Donc ne mettons pas dans un même sac cette information effectivement qui va très vite, qui est tout en direct sans avoir le temps de la réflexion, du filtre et un peu du tamis, et une presse où on a encore le temps de réfléchir. On a ici la représentante d'un hebdomadaire, on a un quotidien du soir, on a une radio. Donc il y a encore des formats qui permettent heureusement d'avoir la distanciation et, je le redis, l'honnêteté nécessaire.
Ça, c'est un discours qu'on entend assez souvent, dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et je veux dire, moi qui suis actuellement en région, les journalistes en région disent souvent « mais non, c'est la presse parisienne qui traite les choses comme ça ». Donc on peut toujours tourner les choses d'une certaine façon. Je crois que tous les médias sont intéressants, on n'est pas anti-médias, et on dit même que c'est important d'avoir des journalistes, parce que nous, en tant que public, on a besoin de gens qui sont capables de, à la fois, donner de l'information, mais à la fois mettre en perspective, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps aussi de lire toute la presse, d'écouter toutes les chaînes de regarder toutes les chaînes de télé, écouter toutes les radios pour se faire une opinion complète. Donc
c'est compliqué de tout voir, Denis Rouget. Cécile Amar, voulez-vous répondre ?
Non, juste c'est pas une question individuelle, c'est pas qu'on est tous les trois individuellement honnêtes. Honnêtement, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette profession n'est pas honnête ? Enfin, on a des règles, on a des déontologies, on vérifie les informations qu'on donne. Enfin voilà, non, je ne laisserai pas dire que les gens ne sont pas honnêtes. C'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être les gens ne nous font pas confiance, mais honnêtement, non, il n'y a rien qui permet de dire ça, donc non.
La presse face à Hollande avec nos invités Thomas Vider, Cécile Amar, Frédéric Mettezeau.
France Culture, le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Thibaut Henton, avec la casquette multimédia cette fois. Alors on assistait à une conférence de presse un peu poussive et sur les réseaux sociaux, comment communique le gouvernement ?
Alors je cite à nouveau la conférence de presse. Il y a un grand enjeu, c'est celui de l'engagement. François Hollande, CM, pour Community Manager. C'est à Mikhaïl Tchaïkovski du Monde que l'on doit cette boutade. Alors le Community Manager, c'est une personne qui anime les réseaux, pour un média ou une marque. C'est lui qui accompagne, répond aux questions, bref, engage. Dans le jargon de Facebook, par exemple, on parle de taux d'engagement pour mesurer la portée d'une publication. Alors prenons la boutade au mot. Après tout, on peut bien voir la France comme une communauté élargie et l'État comme une sorte de super manager. Je pose donc la question suivante, de quel genre de community manager l'État dispose-t-il? Alors j'ai regardé d'abord le site web de l'Élysée qui présente un agenda, de nombreuses photos, mais qui ne sont pas partageables à la différence des photos de la Maison Blanche, des reportages vidéo et même un Vine, cette application tendance qui permet de réaliser des petits clips. Sur le site de l'Élysée, il y a aussi un espace presse. Espace inaccessible à qui ne dispose pas d'un mot de passe, mais ici personne n'a su me dire à quoi ça servait. Donc voilà.
Donc vous êtes penché sur le SIG.
Le SIG, c'est le service d'information du gouvernement. Voilà. 105 agents, 15 millions d'euros de budget. Donc c'est le bras armé du gouvernement en matière de communication, chargé d'analyser l'évolution de l'opinion publique et du contenu des médias, diffuser des informations sur l'action du gouvernement. C'est ce même SIG dont s'était servi le président Sarkozy pour payer une partie des sondages de l'Élysée. Et c'est encore le SIG qui passe des appels d'offres auprès des grandes agences de communication afin de faire accepter un pacte de responsabilité, par exemple, concocter des éléments de langage et entraîner les ministres avant leur passage dans les médias. C'est un service rattaché à Matignon. Ce qui tombe bien quand on sait que Manuel Valls a fait toute sa carrière en politique grâce à la com dont il s'est longtemps occupé pour Lionel Jospin avant de le faire pour François Hollande. Manuel Valls, le grand ami de Stéphane Fuchs, le patron d'Havas, une des agences les plus puissantes de Paris, dont les émissaires sont présents un peu partout, jusqu'au service de la communication à l'Élysée. À la tête de ce service, il y a désormais un jeune énarque de 34 ans, même promo qu'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, un certain Gaspard Ganzer, et tout conseiller qui déjeune avec la presse doit le prévenir avant. Alors voilà pour les acteurs.
Alors des troupes nombreuses, plutôt jeunes, ce qui nous donne quoi concrètement sur le web et quel type de campagne qui
bien principalement des vidéos enrichies ou augmentées, comme lors du discours de politique générale de Manuel Valls mardi à l'Assemblée. À gauche, le streaming en direct, plan fixe sur le Premier ministre. À droite, un volet explicatif avec des infographies et les phrases clés de son discours. Alors, c'était même dispositif sur Twitter avant-hier lors de la conférence de presse avec un des membres du SIG qui tweetait les points importants en images, lettres capitale blanche sur fond bleu, pas l'imitation en fait de ce que fait la Maison Blanche et pas de super dispositif démocratique grâce au réseau, donc pour l'instant qui reste à inventer. Ce qui pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense dans la foulée d'un rapport du Sénat qui encourage le développement des logiciels libres, avec aussi les annonces récentes sur l'open data, comprendre la mise à disposition du public de jeux de données, des chiffres sur le budget, la démographie, la santé et la création cette semaine du poste d'administrateur général des données.
Merci Thibault.
Alors monsieur le président, la question, je vous la pose sans détour.
Le secret des sources.
Alors si vous voulez bien, on va terminer avec trois questions et trois réponses avant d'aller à Bruxelles. Donc trois questions lors de la conférence de presse sous forme de quiz et vous me direz ce qu'il faut en penser. Première question, extrait 2017.
Vous aviez dit, monsieur le président, en avril dernier à des ouvriers que vous envisagiez, si la courbe du chômage n'était pas inversée, de ne pas vous représenter. Vous nous avez dit ce soir que vous espériez des résultats avant 2017. Est-ce à dire que vous envisagez sérieusement de ne pas vous représenter à l'élection présidentielle ?
Je vais vous parler franchement, comme je l'ai fait tout au long de cette conférence de presse. Je suis président. Je ne suis pas candidat. Je serai président jusqu'au bout. Je n'ai pas d'autre objectif, d'autre devoir que de faire tout. Je dis bien tout pour mon pays.
Voilà, président, pas candidat, faut-il le croire, Thomas Vidert ?
Il est candidat à rester président. Et par ailleurs, je pense que la phrase « je suis président, je ne suis pas candidat » était un message subliminal destiné à viser Nicolas Sarkozy, qui lui en est réduit aujourd'hui à être candidat.
À la présidence d'un parti.
À la présidence d'un parti seulement.
Cécile Amar, faut-il le croire ?
Thomas a parfaitement raison. Enfin, il est président aujourd'hui, il n'est pas candidat aujourd'hui. Et effectivement, c'est pour lui le moyen de se démarquer de Nicolas Sarkozy, qui a été président et qui est aujourd'hui candidat.
Deuxième extrait, justement.
Nicolas Sarkozy, dit-on, devrait faire son grand retour sur la scène politique dimanche. Et je me souviens qu'il y a quelque temps, dans un salon d'agriculture au détour d'un stand, un enfant vous avait interpellé et vous aviez répondu « Nicolas Sarkozy, tu ne le reverras plus ». Ce jour-là, vous avez peut-être été un peu imprudent.
Je ne vous vois pas, à défaut de...
Je suis là. tout au fond, là.
De voir ici. De qui vous parlez. Mais
et donc,
où êtes-vous?
Ce retour pourrait être une aubaine, vous auriez un sparring partner, ou est-ce que ce sera une difficulté de plus dans votre mandat?
Il ne m'appartient pas, comme président de la République, de commenter les éventuelles déclarations de candidature à la direction d'un parti, et notamment du premier parti d'opposition.
Alors ensuite, François Hollande ajoute que ceux qui ont gouverné hier ont le droit de auront le droit de diriger demain, ou ont le droit de diriger demain. Mais est-ce que c'est une aubaine pour lui? Faut-il le croire quand il semble s'en désintéresser du sort de Nicolas Sarkozy, qui s'est déclaré sur Facebook comme candidat à l'UMP? Cécile Amar.
Non, ils ne s'en désintéressent pas. Après, depuis le début de ce quinquennat, il y a une partie des responsables politiques qui pensent à gauche qu'il suffit que Nicolas Sarkozy revienne pour que la gauche soit soudée contre lui. Donc voilà. Et après, c'est Manuel Valls, lui, a été plus franc et il a dit qu'il était content d'avoir quelqu'un avec qui débattre, parce qu'il y avait un débat à avoir sur son quinquennat et sur la politique menée par la gauche et par la droite.
Puis c'est surtout une illusion de Thomas croire qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy revient dans le jeu politique, le débat va se repolariser entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, il y a une extrême droite qui est à 30%. Et donc, ça ne va pas faire fondre tout d'un coup le capital politique de Marine Le Pen, le fait que Nicolas Sarkozy revienne. Donc c'est un élément parmi d'autres. Et ils ne sont pas que tous les deux, Hollande et Sarkozy, sur la scène politique.
Dernier extrait, Manuel Valls.
Vous ne souhaitez pas commenter les sondages, soit, mais ils existent et ils nous disent, Monsieur le Président, entre autres, sondage IFOP, que 77% de vos électeurs du premier tour en 2012 ne veulent pas, eux, votre candidature en 2017. Et dans le même temps, Manuel Valls, Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, déclare mardi souhaiter une confrontation directe avec l'ancien président de la République. Et enfin, une consoeur extrêmement bien informée, toujours, croit savoir que Manuel Valls lui aurait confié l'État, c'est moi. Ces trois éléments combinés laissent penser, Monsieur le Président, qu'une rivalité pourrait s'installer entre vous. Est-ce que c'est envisageable?
Si vous regardez la vie politique, tout est envisageable. Si vous regardez Manuel Valls et moi, ce n'est pas envisageable.
Alors, ce n'est pas envisageable, faut-il le croire ou pas, Frédéric Mettezo, la rivalité entre les deux?
Ça, je ne sais pas, mais il ne pouvait pas répondre oui. Il ne peut pas répondre oui, il y a risque de rivalité entre le Premier ministre et moi, c'est évident. Je le disais tout à l'heure, rien n'est inenvisageable en politique, mais là, il faut être clair, il ne peut que répondre non. C'est comme à l'époque Chirac-Balladur, il fallait parler de l'amitié de 30 ans, là, il peut dire que ça n'arrivera pas, il ne peut dire que ça.
Le clin d'œil très politique dans Le Secret des Sources, signé aujourd'hui Nathalie Lopez.
Théâtre ce soir.
Monsieur Manuel Valls, Premier ministre.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Cet été, nous avons fait un choix clair. Ni hausse d'impôts, ni économie budgétaire supplémentaire. C'est un choix politique.
Pour ne pas payer d'impôts, il ne s'agit pas d'être pauvre, il s'agit de savoir s'y prendre.
Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. S'il vous plaît.
Merci de m'offrir l'occasion de répondre pour exprimer devant la représentation nationale le premier regret, c'est pour les propos que j'ai tenus ce matin, si j'ai blessé et parce que j'ai blessé des salariés.
Un ancien de la banque Rothschild, énarque, devenu ministre des Finances à 37 ans, qui traite des ouvrières menacées de licenciement d'illettrés. Pour la gauche de la gauche, l'UMP et un certain nombre de journaux, il ne fallait pas laisser passer l'occasion.
À la radio, votre ministre de l'économie a traité les salariés des entreprises GAD d'illettrés. C'est inadmissible!
Après les cendants du président, les illettrés du bobo parisien M. Macron.
Les décors de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell.
Voilà, Roger Hart, Donald Cardwell. Merci au clin d'œil de Nathalie Lopez. L'actualité de la semaine à l'étranger, aujourd'hui en Belgique, où l'on retrouve Pierre Benazé, correspondant de Radio France à Bruxelles. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Est-ce qui fait la une chez vous cette semaine? C'est une décision incroyable. Un prisonnier belge, meurtrier et violeur, a demandé à être euthanasié. Et la justice, Pierre, a dit oui. Alors qui est cet homme et pourquoi a-t-il été condamné?
Frank Vanenbleken a effectivement violé, sauvagement d'ailleurs, et assassiné une jeune étudiante dans la région d'Anvers, en Flandre. C'était le 1er janvier 89. Il a été condamné à la perpétuité pour ces faits, survenus après d'autres viols commis dans les années 80. Et au cours de son procès, il avait été établi qu'il n'était pas responsable de ses propres actes. Depuis 89, Frank Vanenbleken n'est sorti qu'une seule fois de sa cellule. C'était pour l'enterrement de sa mère. Il est détenu dans l'antenne psychiatrique de la prison de Turnhout, près de la frontière néerlandaise. Il n'est donc pas un simple détenu, mais un interné, selon le vocable en vigueur au sein de l'administration pénitentiaire belge. Le quotidien de Morgen souligne que les proches de la jeune femme assassinée ne décolèrent pas et auraient souhaité qu'il reste en prison jusqu'à son décès.
Alors pourquoi a-t-il demandé l'euthanasie ?
Au départ, il semble qu'elle lui est apparue comme la seule alternative à une autre demande. Frank Vanenbleken avait entamé des procédures en justice afin d'être transféré aux Pays-Bas, à Utrecht, pour bénéficier d'une thérapie dans un centre médico-légal pour la psychologie et la psychiatrie, spécialisé entre autres dans les responsables de crimes graves. L'administration pénitentiaire belge n'offrant que des annexes psychiatriques aux prisons, des annexes qui n'étaient pas spécialisées ou équipées pour ce genre de cas. Mais après examen de son dossier, il avait été débouté en première instance et en appel. Les tribunaux avaient estimé que le ministère de la Justice n'avait pas compétence pour décider de l'extradition ou du transfèrement d'un détenu, qu'il soit ou non d'ailleurs interné psychiatrique.
Et donc il a opté pour l'euthanasie comme solution de repli en quelque sorte.
Oui, et c'est en tout cas ce que disent les commentateurs en Belgique. Certains vont même jusqu'à estimer que ça peut s'apparenter à une forme de chantage pour renforcer les arguments en faveur de sa demande de transfert aux Pays-Bas. En tout cas, c'est l'opinion de l'éditorialiste, notre confrère l'éditorialiste du journal Le Soir. En tout état de cause, sa demande d'euthanasie avait été déposée en même temps que sa demande de transfert. Et Frank Vanenbleken estimait ne pas être libérable parce que, de son propre aveu, il pose toujours un danger à la société. Il affirme être sous le coup d'une souffrance psychique insupportable, ce qu'il place dans les critères de la loi belge sur l'euthanasie. Trois médecins doivent donner leur avis dans le cas d'une demande motivée par une souffrance d'ordre psychiatrique et ils ont donné leur aval.
Et donc ce n'est pas la justice qui autorise ou non l'euthanasie d'un détenu ?
Non, effectivement, la procédure est uniquement du ressort de la médecine. En revanche, l'appareil judiciaire est un peu intervenu pour des détails pratiques, en l'occurrence sous la forme d'un accord avec le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire en vue de sa sortie de prison pour la procédure d'euthanasie. Jusqu'ici, deux détenus ont eu le droit de recourir à l'euthanasie, dont un il y a 2 ans, pour qui la procédure s'était déroulée dans l'annexe hospitalière de la prison de Bruges. Et Frank Vanenbleken a pour sa part bénéficié d'une autorisation de sortie pour que la procédure s'effectue donc dans un hôpital, en présence de ses proches, une procédure qui doit durer 48 heures.
Et on relève tout de même dans la presse belge des critiques sur le fond de cette décision.
Oui, par exemple, pour ne citer que lui, le quotidien Het Laatste Nieuws a interviewé le professeur Wim Distelmans, qui est président de la commission de contrôle de l'euthanasie en Belgique, et lui affirme que cette décision va trop loin. Il aurait fallu, estime-t-il, rechercher une formule de soins palliatifs comme celle qui existe aux Pays-Bas. Et le quotidien De Standaard révélait hier que depuis cette annonce, 15 nouveaux internés se sont manifestés auprès de l'équipe chargée de conseiller les patients sur les questions relatives à la fin de vie, c'est-à-dire à l'euthanasie.
Pierre Benazé, merci. En direct de Bruxelles, le secret des sources se termine. La presse face à François Hollande. Vos commentaires sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également réécouter et podcaster l'émission. Merci à nos invités. Merci à Cécile Amard du journal du dimanche. Thomas Vidère du journal Le Monde, mais aussi producteur sur France Culture de l'Atelier du Pouvoir avec Vincent Martini. Le dimanche à 17h, c'est demain. Et Thomas de Vidère, demain vous recevez...
On reçoit 2 sénatrices, Esther Benbassa et Jacqueline Gouraud, pour parler du Sénat à une semaine des élections sénatoriales.
L'Atelier du Pouvoir, 17h demain sur France Culture. Merci aussi à Frédéric Mettezo de nous avoir accompagnés, chef du service politique à la rédaction, tout comme Mariette Darigrand, Thibaut Henton, Vincent Abouchard, Mathieu Mégy, qui m'ont aidé à préparer cette émission, avec aux manettes Stéphane Poitevin. À suivre, après le journal de Mathieu Laurent, réplique la France face au génocide rwandais. Alain Finkielkraut reçoit Raphaël Maison et Ronny Broman. C'était le secret des sources sur France Culture. À la semaine prochaine.
Quand je dis c'est l'Élysée qui choisit à qui donne la parole, oui. Ils ne choisissent pas les questions qui sont posées. Ils choisissent la personne. Voilà, ils choisissent le média à qui donne la parole. C'est pas, les questions ne sont pas soumises à l'Élysée, c'est pas l'Élysée qui décide.
330 journalistes, pas une question sur le chômage.
On suit les hommes politiques par le prisme politique. La preuve, ce matin dans le secret des sources, 3 journalistes, 3 journalistes politiques.